Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, Brexit, mais comment vont-ils faire ? Recrute d'urgence, diplomate spécialisé dans le droit européen et commercial, adresser les candidatures au ministère pour sortir de l'Union européenne. La petite annonce n'existe sans doute pas en ces termes précis, c'est une invention du journaliste et correspondant à Londres, Eric Albert. Annonce qui figure dans un article du journal Le Monde, où l'on apprend à quel point la classe politique britannique n'est pas prête, pas outillée pour avancer vers le Brexit. Et pour cause, 2 mois pile après le référendum du 23 juin, on peut encore se demander qui sont ces partisans d'une sortie de l'Union européenne. Et si on sait contre quoi ils ont voté ce jour-là, aujourd'hui se pose la question du pourquoi. Pour quel système, pour quelle alternative économique, politique, sociale, les partisans du Leave ont-ils voté à hauteur de 51,9%. En cette rentrée politique et alors qu'a eu lieu hier un mini-sommet européen pour relancer l'Union post-Brexit, se pose la question du « et maintenant ». Comment la Première ministre Theresa May, en place depuis un mois et demi, va-t-elle concrètement faire avancer le pays vers une sortie effective de l'Union européenne. Le début de l'été était surtout marqué par des interrogations d'ordre économique sur le futur de la Grande-Bretagne. Se posent aujourd'hui les doutes politiques, aussi bien sur la capacité d'un nouveau gouvernement à qui il manque encore des hommes et de l'expertise dans ce contexte inédit, mais aussi sur l'avenir d'un paysage politique marqué notamment chez les travaillistes par le doute et l'instabilité. Depuis hier, les militants du Labour ont un mois pour élire le nouveau leader d'un parti d'opposition qui risque de se morceler. Alors après les craintes économiques, comment le Royaume-Uni peut-il dépasser les doutes politiques ? Brexit, mais comment vont-ils faire ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Pauline Schnapper, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à Paris 3, spécialisée notamment dans les questions de politique étrangère et européenne au Royaume-Uni. En face de vous, pour en parler, Jérémy Stubbs, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la section parisienne du Parti des conservateurs britanniques et vous êtes également contributeur à la revue Causeur. Notre troisième invité, c'est Evan O'Connell. Il est avec nous par téléphone. Bonsoir. Vous êtes militant parisien du Labour, le parti travailliste au Royaume-Uni. Et encore avec nous par téléphone, Eric Albert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant à Londres pour le journal Le Monde et aussi parfois chez nous à Radio France, comme c'est le cas en ce moment. Alors, une première question, les volontés, du moins les possibilités de scission au parti travailliste, ont-elles attendu le Brexit pour exister, Eric Albert ?
Alors je pense que ce qui se passe en ce moment au Parti travailliste, qui est spectaculaire, parce que le Parti travailliste se déchire vraiment, va bien au-delà du Brexit. Le Brexit a servi de révélateur. Jeremy Corbyn, qui est un leader très à gauche, a été élu pour la première fois il y a un an maintenant. Et il est beaucoup plus à gauche que les députés, que les cadres du parti. Et en revanche, il est à gauche comme le sont les membres. Et donc, il y a cette tension entre les membres, la base, et puis les députés. Et cette tension-là, elle se joue depuis plus d'un an. Et on l'a revue au moment du Brexit. Le Brexit a servi d'excuse, en quelque sorte, pour les députés, pour de nouveau remettre en jeu le mandat de Jeremy Corbyn. Mais c'est pas sur le... On parle pratiquement pas du Brexit en ce moment dans les débats de Jeremy Corbyn et de Owen Smith. On parle d'abord de quelle voie choisir. Est-ce que c'est très à gauche ou est-ce que c'est plutôt blairiste, centriste ?
Mais est-ce que le Brexit, Pauline Schnapper, peut avoir, en tout cas, le chemin que prend la Grande-Bretagne par rapport au Brexit, à cette sortie de l'Union européenne, peut avoir une influence sur les divisions que traverse en ce moment le Parti travailliste ?
Pas direct, comme Eric Albert vient de le dire. La question européenne a servi de révélateur à des tensions déjà existantes depuis un an, mais même plus loin. On peut remonter aux années Blair pour comprendre les problèmes actuels du Parti travailliste. Ce que la campagne référendaire a montré, c'est la faiblesse de la campagne travailliste pour rester dans l'Union européenne. C'est ça qui est reproché, à juste titre, je crois, à Jeremy Corbyn, c'est-à-dire d'avoir fait une campagne quasiment inexistante, inaudible, alors que toutes les voix travaillistes auraient été indispensables pour avoir une chance que le vote soit positif. Mais de fait, dans la campagne actuelle, ce qui se joue pendant cet été, elle se joue sur l'identité du Parti travailliste, le positionnement idéologique, et effectivement, l'Europe est tout à fait, enfin quasiment absente, mais elle est en arrière-plan dans la mesure où dans les mois qui viennent vont quand même se jouer tout le débat sur la façon dont le Royaume-Uni va sortir ou pas, enfin sortir très vraisemblablement de l'Union européenne, et il y aurait besoin d'une voix travailliste.
Yvan O'Connell, vous qui êtes militant parisien du Labour, le parti travailliste, est-ce que vous pensez que ce contexte post-référendum et donc ce contexte du Brexit peut aider à clarifier la position du Labour?
Je pense que la position du Labour sur l'Europe est relativement claire. Je pense qu'il y a une petite différence, une petite nuance entre les positions d'Owen Smith et de Jeremy Corbyn, à savoir que Owen Smith est pour un deuxième référendum sur les conditions de l'accord final. Et Jeremy Corbyn ne s'est pas vraiment prononcé dessus. Mais je pense que effectivement la campagne actuelle pour l'élection du leader du parti se joue plutôt sur on va dire deux questions principales, à savoir la question de la compétence. Il y a une sorte de procès en compétence ou en incompétence fait à Jeremy Corbyn par principalement les blairistes, mais pas que, beaucoup des députés dans le parti. Et il y a aussi la question de la politique étrangère, parce que là-dessus, il y a une claire rupture entre, la voie traditionnelle plutôt atlantiste, plutôt dans le statu quo de la politique étrangère britannique, que représente Owen Smith, et une voie beaucoup plus, je dirais presque tiers-mondiste, altermondialiste, en tout cas plutôt sceptique de l'OTAN, de l'Amérique, etc., que prône Jeremy Corbyn.
Jérémy Stubbs, sur cette question. Alors, je vais plutôt vous amener à parler du parti dont vous êtes issu, le Parti des Conservateurs, parti dont est issue la Première ministre Theresa May. Quelles conséquences d'un échec de sortie de l'Union européenne? On n'y est pas encore, je suis bien d'accord, mais si on avance un peu, quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'avenir du Parti conservateur? Parti qui, pour l'instant, affiche une certaine unité.
Excusez-moi de pinailler, mais quelle serait la définition d'un échec de la sortie? Parce que il y a beaucoup de possibilités. Soit on n'arrive pas à sortir, soit on fait une sortie qui n'est pas du tout adaptée aux besoins ou aux désirs de différents groupes. Il y aura sûrement autant d'interprétations qu'il y a d'intérêts des événements qui vont arriver. Une chose qui est sûre, et là je réponds un peu quand même à votre question, c'est que son gouvernement doit être vu en train de travailler dans la direction d'une sortie. Et il y aura...
Vu par qui? Par rapport à qui? Par rapport à l'opinion publique?
L'opinion publique, tout le monde, absolument, absolument. L'opinion la plus large possible. Parce qu'il y a, on l'a déjà dit, une sorte d'ordre qui a été donné par le public à travers ce référendum, quoi qu'on pense de ça. Et il faudra un certain nombre de gestes, même très publics, qui montrent qu'il y a une volonté politique à Westminster d'aller dans le sens de ce vote.
Vous dites, Jeremy Stubbs, que les conservateurs ne sont pas le plus grand vainqueur de ce référendum, mais plutôt les plus grands survivants. Pourquoi ?
Exactement. Ben, il est évident que le résultat du référendum a provoqué un bouleversement général. Le Premier ministre, qui était il y a un an, toujours un Premier ministre triomphant, a disparu. On n'en parle plus. Il n'existe plus. Ça, c'est assez rare. L'opposition, nous venons de le dire, est dans un état de chaos extraordinaire. Le fait que chez nous, il existe une première ministre qui est là depuis quelques semaines demi, maintenant, qui semble solide, qui a la confiance du parti et, je pense, d'une majorité du public. Ça, c'est quand même une réussite. On ne peut pas dire que c'est une victoire. C'est une réussite. Et ce qui se passe en face chez les travaillistes, normalement, je ne le dirais pas. Normalement, je dirais que nous avons besoin d'une opposition crédible et forte. En ce moment, nous avons besoin qu'il continue comme ça, parce que...
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire dans le chaos, parce que ça nous donne un peu de temps pour respirer.
Alors justement, ce chaos dont vous parlez, si Jeremy Corbyn est réélu à la tête du parti travailliste le 21 septembre prochain, il y a une possibilité de scission du parti travailliste qui s'ouvre. Est-ce que ce tripartisme serait souhaitable pour la vie politique britannique, Pauline Schnapper?
La scission du Parti travailliste est une,
déjà,
est une possibilité.
Est, voilà, est-ce qu'elle est envisageable?
Quand on voit effectivement la profondeur des divisions et la teneur, l'extrême violence du débat interne au Parti travailliste, on voit mal comment ces gens pourront continuer à travailler comme ils le faisaient dans le passé, en tout cas au niveau des fédérations, au niveau local. En même temps, c'est un énorme risque. On peut imaginer la tentation des centristes, disons, de s'allier avec les libéraux-démocrates. Mais il y a un précédent qui n'est pas de très bon augure. Le précédent, c'est 1981, où il y a eu une telle scission dans des circonstances à la fois différentes et en même temps assez semblables. C'est-à-dire un leadership qui était devenu très à gauche et qui a entraîné le départ d'un certain nombre de députés qui se sont alliés aux libéraux. Et qui, pendant quelques mois, ont eu des sondages extraordinaires qui leur donnaient 20, 25, 30% des voix. Et finalement, quand les élections sont arrivées, ça a été un échec total. Pourquoi ? À cause du mode de scrutin ultra majoritaire à un tour, qui fait que les petits partis sont laminés. Et donc les travaillistes d'aujourd'hui ont tous en tête ce précédent d'il y a 35 ans et le mode de scrutin est le même. Donc le risque, c'est évidemment que l'opposition, en se divisant en deux, se détruisent pour... Alors en 80, ça a été le cas jusqu'en 97.
Hein. Et ça peut se reproduire aujourd'hui.
Le Parti travailliste a été ramené dans l'opposition pendant des années et des années. Donc le risque, c'est qu'une telle scission se fasse au bénéfice du Parti conservateur. Et non pas au bénéfice, je dirais, du centre et du centre-gauche, qui a quand même été représenté dans les 48% d'électeurs, pas tous venus de là, bien sûr, il y avait aussi des conservateurs, mais qui ont voté contre la sortie du Royaume-Uni. Donc, voilà, y aura-t-il scission ou pas? C'est toute la question qu'on va voir dans les semaines et les mois qui viennent.
Éric Albert, vous qui allez rencontrer justement Jeremy Corbyn ce soir et qui êtes plongé dans cette atmosphère de l'élection du prochain leader du Parti travailliste, est-ce que cette scission vous paraît envisageable aujourd'hui?
J'y crois pas. Aujourd'hui, j'y crois pas du tout. C'est un meeting électoral de Jeremy Corbyn que je vais ce soir, pas de rencontrer en tête-à-tête. Mais Jeremy Corbyn a réussi effectivement à créer un mouvement de masse qui est tout à fait étonnant à voir. Il y a aujourd'hui 500 000 d'adhérents au Parti travailliste. C'est le plus gros parti travailliste depuis sous Blair. Il y avait que 400 000 personnes, donc c'est beaucoup plus gros que sous Blair. C'est l'un des plus gros d'Europe. C'est très étonnant et en même temps, il ne convainc absolument pas le reste de la population. Il est tout au fond des sondages. Mais pour exactement la raison qui vient d'être expliquée, parce que le mode de scrutin est très dur. C'est celui qui a le plus de voix dans la circonscription qui remporte et les autres n'ont rien. Donc être deuxième, être troisième, ça ne sert à rien. Pour cette raison-là, je ne crois pas en une scission et parce qu'il y a eu un précédent catastrophique. Je voulais aussi revenir sur une chose qui est quand même spectaculaire, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le monde politique britannique a implosé, c'est parce qu'il y a eu le Brexit. Le Brexit vient des conservateurs, c'est David Cameron qui a donné ça pour essayer de calmer son aile droite, et pourtant ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les conservateurs, et c'est assez exceptionnel. Les travaillistes font un cadeau gigantesque aux conservateurs, c'était l'occasion effectivement pour eux d'attaquer vraiment les conservateurs, Theresa May, Boris Johnson, tous ces gens qui se sont complètement divisés pendant des mois, qui se sont étripés pendant des mois de façon assez virulente d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui s'est passé, contre tout pronostic. Et c'est vraiment un cadeau étrange de la part des travaillistes fait aux conservateurs.
Alors on va poser la question à Ivan O'Connell justement. Je voudrais, Ivan O'Connell, reprendre ce qu'a dit Jeremy Stubbs dernièrement, que le Parti travailliste socialiste faisait un cadeau, enfin que le parti conservateur profitait du chaos offert par le parti travailliste. Et vous-même vous dites que le parti travailliste n'arrive pas à ne pas montrer ses divisions. Pourquoi, dans ce contexte justement où il devrait afficher une certaine unité pour survivre, est-ce que le parti n'arrive pas à montrer cette unité là?
Je pense que, de toute façon, il y a un fossé croissant depuis un certain nombre d'années entre les militants et les députés. Cela est une réalité où personne du côté, on va dire, du côté des députés ou du côté des militants plus à gauche ne peut le nier. Mais je pense que ce moment-ci, l'été, directement après le référendum, quand les négociations n'ont même pas encore commencé, je pense que c'est le meilleur moment justement de enfin avoir ce débat au sein du parti. Parce que plus tard, on aura besoin d'un parti unifié. Alors bon, la réunification du parti, la réconciliation sera longue. Mais de toute façon, si l'on avait ce débat plus tard, au moment des négociations, on serait totalement inaudible. Aujourd'hui, de toute façon, je ne crois pas à la scission du parti. Je pense que, comme l'ont dit les autres intervenants, c'est très peu probable. Je pense que si l'on en finit, en tout cas pour l'instant, avec ces débats-là, et j'espère que l'on en finira. Je pense que on pourra montrer et donner une voix travailliste, une voix plus à gauche, qui sera vraiment nécessaire lors des négociations sur le Brexit et lors aussi de la définition des futures politiques sociales, économiques, etc. de la Grande-Bretagne, une fois en dehors de l'Union européenne. Les acquis sociaux, etc., donnés par l'Union européenne, il faudra les protéger et il faudra que les travailleurs soient au rendez-vous pour défendre tous ces droits-là dans les années à venir.
En ce qui concerne les divisions politiques, vous, Éric Albert, vous dites que si le parti des conservateurs aujourd'hui arrive à afficher une unité de façade, ils présentent certaines divisions qui risquent de revenir à la surface dans les mois à venir.
David Cameron a été Premier ministre pendant 10 ans. Avec une aile droite qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Cette aile droite, elle n'a pas disparu du tout. Theresa May a eu la logique, l'intelligence de faire rentrer cette aile droite avec Liam Fox, qui est ministre du commerce international. Et puis Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères, à l'intérieur du gouvernement, pour les calmer, pour maîtriser leurs paroles un petit peu. Mais ces gens-là ont toujours fait preuve d'une liberté de parole très grande, ils vont pas la perdre, et dès qu'il y aura l'occasion de revenir, de remontrer les divisions, de ruer les brancards, ils le feront, et cette aile droite reste très 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 forte. C'est elle quand même qui a gagné le Brexit. Et c'est assez étonnant d'ailleurs que c'est elle qui a gagné le Brexit, et immédiatement c'est une première ministre pour le Remain, pour rester dans l'Union européenne, qui a pris le pouvoir, sans visiblement que ça ne fasse trop crise. Ça paraît tout à fait illogique, et cet illogisme-là va un jour ou l'autre ressurgir.
Pauline Schnapper, sur cette question.
Oui, tout à fait. Autant le Parti travailliste traverse une crise existentielle en ce moment, on vient d'en parler, mais pour autant, il ne faut pas oublier que les divisions du Parti conservateur, cette fois sur l'Europe, qui durent depuis 20 ans, sont loin d'avoir disparu avec le référendum. Donc effectivement, les plus anti-européens sont maintenant dans le gouvernement, et ils ont une vision du Brexit qui est très différente de celle des conservateurs qui voulaient rester dans l'Union européenne, comme Theresa May. Et donc on va voir ressurgir très vite, hein, probablement dès cet automne, un débat de fond entre ceux qu'on appelle les partisans d'un Brexit soft et ceux qui veulent un Brexit hard, c'est-à-dire entre ceux qui veulent garder des relations aussi proches que possible avec l'Union européenne et ceux qui veulent vraiment couper les ponts complètement et signer des accords de libre-échange avec la Chine ou l'Inde. Et ces divisions-là, elles vont revenir très vite et elles pourraient être sanglantes.
Jérémy Stubbs, sur ces divisions qui pour l'instant semblent endormies au sein du Parti des conservateurs et qui pourraient revenir dans les mois à venir.
Mais personne n'a intérêt à voir ces divisions
jusqu'à
revenir.
Jusqu'à quand pouvez-vous préserver cette unité visible de façade au Parti des conservateurs?
10 ans, si vous voulez. 10 ans. Personne n'a intérêt à voir des divisions revenir. Ça, c'est clair. Et puis, je pense qu'il y a une stratégie relativement intelligente de la part de Theresa May. Elle a créé ce triumvirat, Johnson, Davis.
Aux affaires étrangères, et Davis Fox. Au ministère du Brexit et Fox
voilà,
au, ministre, dit. Au ministère des Affaires du Commerce International.
Ces trois hommes, ils sont à la solde de Theresa May. Sans elle, ils ne seraient pas là. Et on peut dire que, bon, Johnson, il avait un petit capital de popularité, mais quand même, il avait échoué justement au moment où il devait se montrer fort. Après sa victoire, entre guillemets, là, il a disparu. Donc, il est revenu grâce à Theresa May. Les deux autres, ce sont un peu des anciens. Ce ne sont pas des jeunes. Donc, ils dépendent d'elle. Et je pense qu'ils ont intérêt eux-mêmes à faire preuve d'une certaine discipline. En même temps, comme ils sont trois, il y a inévitablement des rivalités entre eux. Mais ils ne pourront pas vraiment résoudre ces rivalités parce qu'ils sont trois. Donc elle va rester maîtresse de la situation, je pense.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Brexit, mais comment vont-ils faire? C'est la question à laquelle on essaie de répondre ce soir avec Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine, avec Jérémy Stubbs, le président de la section parisienne du Parti des conservateurs, Ivan O'Connell, militant parisien au Labour, et Eric Albert, journaliste. Je voudrais, avant d'aborder véritablement la question de la mise en œuvre gouvernementale du Brexit, faire un petit point sur UKIP, un UKIP dont on a beaucoup parlé pendant la campagne sur le référendum du Brexit, parce qu'il a fait de ce Brexit une ligne de campagne. Alors, bon, c'est un parti dont Nigel Farage a fini par démissionner. Ce parti, deux mois après ce référendum, comment peut-il encore peser sur l'échiquier politique post-référendum, Pauline Schnapper?
Je crois qu'il a deux façons de le faire. Je suis dans l'hypothèse, hein, il va peut-être s'écrouler dans les années qui viennent. Mais à mon avis, il y a deux façons de le faire. Le premier, c'est en s'érigeant en espèce de gardien de la foi, critiquant le gouvernement s'il n'obtient pas exactement les termes qu'il veut dans la négociation avec l'Europe, notamment sur la question de la libre circulation des personnes. Donc il peut continuer à entretenir cette espèce de flamme anti-européenne. Et puis je crois qu'il y a une autre façon, peut-être en élargissant ce qu'il a déjà commencé à faire, son terrain d'activité, si je puis dire, et en se transformant ou en confirmant son orientation de, j'allais dire, de parti populiste, comme il y en a beaucoup d'autres en Europe et aux États-Unis, anti-élite, défenseur des pauvres gens. Et ça, à la limite, il a même pas besoin d'être dans l'Europe pour pouvoir continuer à tenir ce discours-là.
Ce qui s'est passé juste après le référendum, ça peut déjà ne pas le décrédibiliser
Non, parce que c'est un parti qui s'est maintenant implanté dans un certain nombre de régions pauvres de l'Angleterre, nord de l'Angleterre, les régions côtières, dont les problèmes ne vont absolument pas être réglés par le Brexit, contrairement à ce que ses électeurs pensent. Et donc, d'une certaine façon, UKIP peut se reproduire simplement en continuant à exprimer l'espèce de colère de ces gens qui vont en plus souffrir de la crise économique que le Brexit va certainement provoquer par ailleurs. Mais ça, c'est une autre question. Donc, paradoxalement, il pourrait se transformer ou continuer sa transformation en parti de protestation.
Eric Albert, est-ce que ce parti UKIP peut se sauver, peut se transformer en récupérant les Brexiteurs hard dont parlait Pauline Schnapper?
C'est assez étrange. Le UKIP est l'un des rares partis au monde qui a été créé pour un objectif précis, en l'occurrence sortir de l'Union européenne, et qui a réussi. Et donc, il doit effectivement répondre à cette question. Mais à quoi sert-il aujourd'hui? De fait, c'est tout à fait exact. Aujourd'hui, c'est devenu un parti populiste qui dépasse largement la question purement européenne. C'est devenu un parti d'extrême droite. Au début, c'était pas un parti d'extrême droite. C'est un parti souverainiste, mais pas d'extrême droite. Aujourd'hui, c'est devenu populiste. Et il peut continuer. Il a un deuxième problème, au-delà de ça, c'est que il était une personne. Le UKIP, c'était Nigel Farage. Mm-hmm. Nigel Farage a déjà démissionné deux fois par le passé de la tête du UKIP. Donc, ça m'étonnerait pas outre mesure qu'il revienne après cette troisième démission. Mais s'il revient pas, ça va être plus compliqué parce que, franchement, tous les autres leaders du UKIP sont vraiment des seconds couteaux peu connus que Nigel Farage n'a d'ailleurs jamais laissé s'exprimer. Donc, il y a un problème quand même à la tête du UKIP. Il faudra que quelqu'un incarne ce mouvement populiste. Si c'est pas Nigel Farage, on voit pas très bien qui pour l'instant, mais peut-être que quelqu'un va émerger.
Alors, je voudrais maintenant qu'on parle vraiment de ce qui va se passer à l'échelle du gouvernement dont Theresa May est à la tête. Theresa May qui avance très prudemment sur le Brexit, qui gagne du temps, comme vous l'aviez souligné aussi, Jeremy Stubbs, et qui s'attache d'abord à consolider son pouvoir, selon certains commentateurs, certains analystes politiques. Par quoi ça passe, Jeremy Stubbs, la consolidation de son pouvoir dans cette période d'incertitude politique ?
Il y a plusieurs étapes dans la consolidation du pouvoir. Elle a déjà accompli les premières actions. Ensuite,
Quelles étaient les premières actions?
Ben, constituer un gouvernement. On a un gouvernement, on sait qui fait quoi. Il y a encore quelques
ajustements,
mais c'est normal, c'est la politique. Ensuite, l'étape suivante, ce sera vraiment de faire quelque chose de très visible pour exécuter l'ordre du public au sujet du Brexit. Là, on attend quelque chose. On a des rumeurs. Bien sûr, il y a toujours des rumeurs, mais il arrive un moment où il faut quelque chose de très concret qui ne soit pas de l'ordre des rumeurs. Et c'est ce qu'on attend maintenant.
Pauline Schnapper, sur ce nouveau gouvernement post-Brexit est en proie à des tensions et il n'est pas complètement installé, comme sous-entendait Jeremy Stubbs. Le gouvernement est en place, mais pas tout à fait. Il manque encore des personnes, il manque encore des fonctionnaires, beaucoup, des fonctionnaires qui aient connaissance du dossier européen et surtout de la manière d'en sortir de cette Union européenne. Comment ça peut se passer dans les semaines, dans les mois à venir ?
Ce qui est très frappant depuis deux mois, c'est le degré d'impréparation des élites à la fois politiques et administratives pour l'hypothèse du Brexit. Ce qui pouvait s'expliquer, c'est-à-dire que d'abord personne ne voulait y croire, ni à Londres, ni à Bruxelles, pendant très longtemps. Et puis David Cameron refusait absolument que les différents ministères se préparent des scénarios de Brexit pour ne pas donner l'impression d'encourager un tel vote. Donc il y a eu une espèce de déni de la réalité jusqu'à il y a deux mois. Ensuite, il a fallu le temps que Theresa May soit élue d'abord et mette en place son gouvernement. Donc, on est... et puis, il y a eu l'espèce de torpeur estivale que nous connaissons tous. Ce qui fait qu'on se retrouve fin août dans une incertitude qui reste totale. On n'est pas sûr du tout que les trois ministères dont on a parlé, enfin, je ne parle pas du Foreign Office qui est un cas à part, mais les deux nouveaux ne sont pas installés. Mmh. On n'a pas encore recruté de personnel compétent pour mener les futures négociations commerciales. Personne ne sait quand le fameux article 50 du traité de Lisbonne va être activé, donc quand officiellement les négociations commenceront avec Bruxelles. Et personne, surtout, ne sait ce que Theresa May veut. Je ne parle même pas de ces trois ministres en charge de la question. Mais le Premier ministre, qui, comme le disait Jeremy, est quand même la personne qui va fixer, donner les ordres et fixer la ligne de conduite, on n'est même pas sûr qu'elle-même sache vraiment ce qu'elle souhaite obtenir des négociations avec Bruxelles. Donc il s'ouvre une période de plusieurs mois au moins, sinon de plusieurs années, de flou complet sur ce qui va se passer.
Ewan O'Connell, est-ce que vous observez vous aussi ce déni de réalité par rapport à cette réalité politique qui attend le gouvernement britannique dans les mois à venir ?
Oui, totalement. Je pense que il y a un conflit fondamental qui est celui de la migration versus l'économie, puisque les souhaits du camp du Brexit, pour la plupart, était qu'il y ait à la fois un plus grand contrôle des politiques migratoires et aussi le maintien d'une intégration dans l'espace, on va dire, l'espace économique européen, tout en se libérant bizarrement, drôlement, des règles du marché unique. Et je pense que l'on verra dans les mois et les années à venir que tout cela a été un malheureusement trop tard, mais que tout cela a été un mensonge, que le fait de vouloir conjuguer toutes ces choses à la fois n'est pas possible et qu'il faudra choisir. Et là où comment dire la popularité actuelle de Theresa May commencera à je pense ternir, ce sera au moment où où l'on commencera clairement à parler de si oui ou non le Royaume-Uni reste dans le marché unique, ce que cela veut dire pour l'économie et ce que cela veut dire aussi pour la maîtrise des politiques migratoires. Et là, je pense que Theresa May ne pourra mettre la faute sur le trio des Brexiteurs, donc Johnson, Johnson, Davis et
Fox, Liam Fox.
Voilà, Liam Fox. Elle ne pourra mettre la faute sur leur dos que pendant un certain moment, avant que le peuple britannique commence à se dire. En fait, le premier ou la première responsable, c'est quand même Theresa May.
Éric Albert, Pauline Schnapper à l'instant disait on ne sait même pas ce que Theresa May, la première ministre, veut. Jusqu'à quand peut-on tenir en Grande-Bretagne dans un tel contexte d'indécision?
C'est toute la question. Pauline Schnapper a entièrement raison. On est dans un flou absolu. On ne sait pas ce que Theresa May veut. Elle-même ne sait probablement pas ce qu'elle veut. De toute manière, les ministères ne sont pas prêts. De toute manière, les fonctionnaires ne sont pas recrutés. Effectivement, rien n'est prêt. Et on est en train de voir tous les lobbies organisés, notamment à la City, qui disent on veut surtout que rien ne change, donc on veut conserver par exemple le fameux passeport financier, on veut que tout soit encore en place, mais nominalement, on sera sorti de l'Union européenne, mais en fait, concrètement, par la porte de derrière, on sera re-rentré. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent. Et il y a une partie du Parti conservateur et une partie des travaillistes qui seraient prêts à accepter ça. Et puis, il y a tous ceux qui veulent le Brexit hard, le Brexit plus difficile. Et il va falloir que Theresa May tranche un moment ou un autre. Elle s'est donnée jusqu'à la fin de l'année, au moins. Ça, elle l'a dit. L'article 50 ne sera pas déclenché avant la fin de l'année. Ensuite, ça va commencer à devenir compliqué.
Ce qui donne en pratique une sortie de l'Union européenne en 2019, si tout va bien, si le calendrier est respecté à partir de sa prise de décision.
En fait, son problème, c'est exactement ça. Son problème, c'est qu'une fois que l'article 50 est lancé, le chronomètre est lancé, il y a 2 ans avant la sortie, et donc le Royaume-Uni se retrouve dos au mur. C'est pour ça qu'il veut affiner ses demandes, affiner sa position avant de lancer l'article 50, et il voudrait aussi faire des négociations avant de lancer l'article 50. Donc, il veut repousser le plus possible jusqu'à ce qu'il soit vraiment prêt, cette fameuse utilisation de l'article 50. Jusqu'à début d'année 2017, ça ira, politiquement. Ensuite, ça va commencer à tirailler, sérieusement. Alors, on commence à entendre parler, peut-être que ce sera finalement mi-2017, fin 2017, après les élections françaises ou après les élections allemandes, parce que pour des raisons politiques, ce sera compliqué d'avancer. Mais si ça se produit comme ça, on va commencer à voir des gens au sein du gouvernement y compris, par exemple David Davis, le ministre en charge du Brexit, par exemple Boris Johnson, qui vont commencer à dire « il va falloir accélérer ». Sans même compter le UKIP, sans même compter toute l'aile droite vraiment dure du Parti conservateur, qui va finir par dire « maintenant, il faut avancer ». Donc, Theresa May a quelques mois devant elle, mais ce ne sera pas facile au-delà.
Jérémy Stubbs, sur cette question du Brexit que l'on voudrait, que l'on veut en Grande-Bretagne, au sein du Parti des conservateurs, quelles sont les différentes divisions par rapport à cette sortie de l'Union européenne, par rapport à cette vision d'une sortie de l'Union européenne?
Oh, nous l'avons déjà dit, c'est entre le soft et le hard.
Et au-delà de ça
ce sont les deux grandes catégories, et on peut sans doute trouver autant de variations qu'il y a d'individus Mais ce sont les deux grandes catégories et il s'agit de plaire ou de en même temps. Le hard et le soft. Et c'est le travail d'un équilibriste, il faut le dire.
Il y a plusieurs modèles qui se discutent.
Il y a des modèles, mais là, quand vous rentrez dans les détails, les gens, ils ne savent rien, c'est la vérité. Les gens se disent hard ou soft, en quelque sorte, mais comment traduire ces positions dans la réalité, c'est ça ce qui est difficile. Si c'était facile, nous serions beaucoup plus à même de dire où nous allons. Le diable est dans les détails. On ne sait pas ce que c'est qu'un Brexit, ni soft ni hard. La réponse se trouve quelque part dans une sorte de triangle des Bermudes, entre la Norvège, la Suisse et le Canada.
Vous, vous dites, Jeremy Stubbs, que l'attente, cette attente de la mise en application du Brexit, c'est devenu une habitude en Grande-Bretagne. Vous me disiez ça avant d'entrer en studio.
Ce que je disais, c'est que pour le moment, tout le monde s'est habitué à l'idée qu'il va y avoir un Brexit et aussi au fait que pour le moment, il ne se passe rien. C'est une sorte de drôle de guerre, mais ça ne peut pas durer.
Éric Albert, vous vouliez réagir?
Juste pour expliquer peut-être aux auditeurs ce que le Brexit hard ou le Brexit soft voudrait dire. Très Allez-y. Clairement, juste en un mot, ça se joue sur l'immigration. C'est est-ce que la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne restera avec le Royaume-Uni ou pas? Si la libre circulation reste, concrètement, un Français comme moi peut venir s'installer à Londres du jour au lendemain sans visa, sans rien, et si ça peut continuer, c'est du Brexit soft. Et en gros, on laisse tout pratiquement comme avant. Le hard, c'est on remet des frontières et moi, Français qui arrive au Royaume-Uni, j'ai besoin de demander un permis de travail, par exemple. Entre ces modèles-là, il y a effectivement 3000 nuances de gris, qui peuvent à plus ou moins de souplesse sur les visas, plus ou moins de souplesse sur le libre-échange. Mais c'est là-dessus vraiment que ça se joue.
Il y a aussi cette proximité, cette possibilité de négocier une sortie de l'Union européenne avec les partenaires européens et sans, comme voudraient le faire par exemple les plus conservateurs du Parti conservateur, Jeremy Stubbs. Vous vouliez réagir sur ce que disait Éric Albert à l'instant.
Oui, je pense qu'il y a d'autres éléments aussi qui sont en jeu. Plus c'est hard, plus c'est rapide. Plus c'est soft, plus on peut en quelque sorte attendre pour avoir le meilleur résultat. Le problème, c'est la série de négociations qui sera gigantesque. Mais gigantesque, les gens ne réalisent pas.
Justement, sur cette question, Pauline Schnapper, si un jour, on se dit que les conditions sont là maintenant pour sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est là que commencent les problèmes? Est-ce que le pire est à venir dans les négociations, justement?
Oui, il y aura des négociations sans fin. C'est une espèce de tonneau des Danaïdes. Plus on réfléchit, plus on voit tout ce qu'il va y avoir à négocier. Dans un premier temps, pendant les fameuses deux années, une fois l'article 50 activé, il y aura à régler tous les détails, j'allais dire pratiques, techniques, où seront basées les agences qui sont pour l'instant au Royaume-Uni, quid du budget européen, enfin des détails de ce type. Et puis une fois le Royaume-Uni sorti, ou peut-être en parallèle d'ailleurs déjà, il y aura toutes les négociations sur la suite, c'est-à-dire sur la nature des relations avec l'Union européenne. Et là on revient à ce que disait Éric Albert il y a un instant, c'est-à-dire toutes les nuances possibles dans une espèce de pôle entre, d'un côté, ça change très peu, on garde le marché unique, on garde la libre circulation, voire la participation au budget européen, comme le font les Norvégiens ou les Suisses, et à l'autre extrême, plus aucune relation avec l'Union européenne, donc reprise totale du contrôle des frontières, mais aussi des négociations sans fin pour signer des accords de libre-échange bilatéraux avec les pays membres et aussi, bien sûr, avec le reste du monde. Donc, c'est un peu vertigineux, si vous voulez.
Ivan O'Connell, vous vouliez réagir sur cette question?
Oui, tout à fait. Je pense que il faut effectivement souligner avant tout que, bien que Jeremy Stubbs parle de négociations longues, ce n'est même pas sûr que des négociations longues puissent avoir lieu. Je pense que, honnêtement, si l'on discute avec des diplomates, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, il y a une volonté d'en finir rapidement et de passer à autre chose. Je pense que le mythe dans la tête de pas mal de personnes des deux côtés du débat du Brexit, c'est que l'Europe a tellement envie de garder des liens avec la Grande-Bretagne que elle permettra aux Britanniques de négocier pendant 5-10 ans. Typiquement, pour prendre l'accord avec le Canada, il a pris 6 ans à négocier et il n'est toujours pas ratifié. Je pense que honnêtement, personne n'aura la patience et les partenaires européens vont avant tout vouloir de la stabilité, vouloir d'abord se dire ok, nous on a clarifié nos liens avec les Britanniques et maintenant on passe à autre chose. Si les Britanniques veulent ensuite tisser des liens plus forts, ils peuvent revenir vers nous. Donc je pense honnêtement que cela est aussi un mythe qui sera à briser dans les mois à venir.
Jérémy Stubbs.
Oui, je répondrai à Evan que on aura beau être impatient, ça ne va pas faciliter les choses et nous aurons non seulement à négocier avec l'Europe, mais avec les 27 entités à l'intérieur de l'Europe. Ce ne sera pas simple et ce ne sera pas fini de sitôt.
Éric Albert, est-ce que le pouvoir actuel peut se perdre dans la question du Brexit ?
Il peut subir de graves crises. En plus des 27 partenaires européens qu'il faudra négocier, il faudra par exemple renégocier les 43 accords de libre-échange qui existent actuellement entre l'Union européenne et le reste du monde. Il faudra négocier les problèmes de circulation des gens. Il faudra négocier des millions de choses avec des millions de crises potentielles à tous les coins de rue, à tous les tournants, que ce soit au sein des conservateurs, que ce soit chez les travaillistes. Ça va dominer très largement toute la question politique, tout le paysage politique pour les années à venir, c'est certain.
Pauline Schnapper, est-ce que on s'achemine vers un Brexit impossible ? Est-ce qu'il est possible à ce stade de faire marche arrière ?
Oh, c'est peu vraisemblable. Dès lors qu'on donne la parole au peuple, même si le peuple donne une réponse qui ne nous plaît pas, c'est trop tard. Hein. Il fallait y penser avant.
Est-ce que dans ce contexte, on peut s'acheminer vers un Brexit malgré tous les obstacles, toutes les résistances que vous avez énumérées ?
Oui, je crois que le Brexit aura lieu. Ce sur quoi on discute, c'est de la façon dont il aura lieu. Mais je vois mal comment on peut l'éviter, à moins... et c'est l'hypothèse dont on a parlé au tout début de cette émission, ou plus exactement dont certains travaillistes parlent, à moins que un gouvernement, quel qu'il soit, décide de proposer un nouveau référendum sur l'accord qui serait trouvé.
Ça, c'est une possibilité, c'est envisagé en ce moment.
Tout est envisageable. Je veux dire, on est dans un tel niveau d'incertitude qu'on peut tout imaginer. J'ajouterais juste un mot peut-être pour finir. C'est qu'on a parlé beaucoup de toute cette dimension politique et des négociations. Il ne faut pas oublier que tout cela pourrait aussi se produire sur fond de soucis économiques grandissants. Parce que pour l'instant, il est évidemment trop tôt pour voir les conséquences économiques du vote. Mais une éventuelle crise pourrait rendre la crise politique encore plus importante.
Donc la question reste ouverte. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous, Pauline Schnapper, Ivan O'Connell, Jérémy Stubbs et Eric Albert. Des liens, des références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, de même que cette émission que vous pouvez réécouter, podcaster et commenter. Merci à la brillante équipe de ce Grain à Moudre d'été, Chloé Leblon, Philippine Lebray, Tanguy Omri, Jean-Christophe Francis à la réalisation, accompagné ce soir à la prise de son de Jean-Guilain Meige.